Auditeurs ont la parole.
Éric Brunet et Céline Landreau sur RTL.
Demain sera donc l'ultime session sur ces négociations, sur les retraites. Ce conclave prendra fin donc demain. Ce conclave initié par François Bayrou et les organisations syndicales ne sont pas apparemment ravies de la tournure que les choses prennent. On est avec Nicolas qui a fait le 32-10. Mon cher Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Et vous avez la parole, Nicolas, sur cette nouvelle négociation qui ressemble à un échec.
Je vous remercie. J'ai demandé à pouvoir glisser un mot sur les oubliés de la pénibilité. En fait, dans la réforme des retraites, il y a des gens qui n'ont pas droit à la pénibilité pour des raisons simples. Alors, je voulais vous expliquer ça.
D'accord.
Que plus de gens en fâchent un peu plus, quoi.
Ouais. Vous en faites partie de ces salariés qui sont exposés à la pénibilité, vous-même, Nicolas ?
Tout à fait. En tant que salarié, ce sont tous des intérimaires, en fait.
Ah, vous voulez parler des intérimaires, effectivement. Restez avec nous, Nicolas, vous aurez le micro dans une poignée de secondes, tout de suite à 13h. Et une minute, c'est le rappel des titres avec Céline Landreau.
L'Union européenne juge que la Russie ne peut pas être un médiateur objectif dans le conflit qui oppose Israël et l'Iran. Conflit au cœur du G7 qui s'ouvre aujourd'hui au Canada alors que les frappes aériennes se poursuivent entre les deux pays. L'Iran accuse ce midi Israël d'avoir pris pour cible un hôpital à Kermanshah dans l'ouest du pays. Téhéran dénonce un crime de guerre. Le salon du Bourget s'est ouvert ce matin. C'est le plus grand rendez-vous d'aérospatial au monde, marqué évidemment cette année par le contexte géopolitique. Et en parallèle, le constructeur Airbus annonce une commande de 30 avions A320 Neo, 10 cargo A350 auprès du loueur saoudien Avilise. Et puis la vérité est-elle toujours convaincante ? Notre avenir dépend-il de la technique ? 530 000 lycéens ont planché sur les sujets de philo ce matin. Début des épreuves écrites avant les enseignements de spécialité demain pour les terminales.
Stop aux moustiques avec le spray répulsif antipique Pur Essentiel. La protection naturelle efficace 7 heures contre tous les insectes piqueurs.
Louis Baudin, la météo, on ne suffoque pas encore aujourd'hui, mais on se prépare doucement à une belle vague de chaleur.
Exactement, de la chaleur qui devrait s'intensifier en deuxième partie de semaine. Enfin, déjà aujourd'hui, il fera chaud, nous serons largement dans des températures estivales. Tout ça avec un soleil dominant quasiment partout. Je vois encore pas mal de nuages là, sur le nord de la Bretagne ou encore sur le Cotentin. Mais là aussi, quand même, le soleil devrait se montrer, tout comme du côté de la région Rhône-Alpes où reste quelques nuages. Tout ça sans conséquence, pas de précipitation. Alors tout de même, en fin d'après-midi, sur les Alpes du Sud ou encore le relief Corse, là il y aura un risque d'averse, ce qu'on appelle l'évolution d'urne, voire d'orage. Attention au vent qui continuera à souffler dans la vallée du Rhône. Le Mistral atteindra les 80 km/h, notamment du côté d'Avignon, c'est déjà le cas en ce moment. Et puis ces températures, donc en hausse, 18 à 22 degrés près de la Manche, 24 à 27 degrés dans les autres régions et déjà 28 à 32 ou 33 degrés près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis.
Les auditeurs ont la parole.
Éric Brunet et Céline Landreau sur RTL.
Donc Nicolas est avec nous et il nous disait les grands oubliés de la pénibilité, puisque ce conclave sur la réforme des retraites touche à sa fin. Ça n'a pas l'air de ressembler à un succès. Donc Nicolas nous disait les grands oubliés de la pénibilité, c'est les intérimaires, Nicolas.
Alors c'est tout particulièrement les intérimaires à contrat court, voire très court. Ce sont des contrats de quelques heures, de quelques jours. Ça touche plusieurs types d'activités. Moi, essentiellement, c'est le merchandising, ce qu'on appelle le merchandising. Donc, je travaille pour les fournisseurs dans les grandes surfaces. Mmh. Bon, ce matin, j'avais un contrat de 3 heures pour un fournisseur par une agence d'intérim, suivi d'un autre contrat de 4 heures pour un autre fournisseur par une autre agence d'intérim.
Vous faites quoi concrètement? Alors, vous arrivez sur place et quel est votre travail?
Il est multiple. Ça peut être, par exemple, refaire un rayon avec un nouveau plan. Après les négociations, on a entendu parler de négociations entre les fournisseurs et les distributeurs. Ça peut être déplacer des rayons. Quand vous faites vos courses et vous dites « Ah non, ils ont encore tout changé », bah c'est nous.
C'est de votre faute, en fait, Nicolas, c'est ça.
Voilà. Donc, mes camarades et moi, on fait ça plutôt la nuit. Ça peut être aussi monter des opérations en allée centrale ou en tête de gondole, bien sûr. Ça peut être aussi des animations, les dégustations de vendredi et samedi. Là, c'est les animateurs.
Donc si on liste la pénibilité, il y a les poids que vous devez transporter, déplacer, les horaires décalés.
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les horaires sont extrêmement décalés. Effectivement, on peut avoir 25 heures d'affilée de contrats différents et ensuite dormir 2 heures et reprendre 10 heures et ensuite plus avoir de boulot pendant un jour et demi. Tout dépend des missions dont les fournisseurs ont besoin. Hein. C'est voilà. Donc nous, on est pire que les 3-8 au niveau décalé, effectivement. Les poids, c'est pas tellement les poids en grande surface, c'est plus quand même la répétition des gestes. Parce que vider tout un rayon de chien-chat ou un rayon de bébé très vite pour que les commerciaux puissent faire le nouveau plan et recharger très vite avant que le magasin n'ouvre, bah, c'est des gestes hyper rapides. Quand on a près de 100, 105 caddies de bouteilles d'alcool qu'on a vidées d'un rayon et qu'elles re-remplies après dans un rayon, il faut aller très vite. C'est du geste répétitif plus que du poids,
D'accord.
Je dirais. Ouais.
Mais alors, ce qui fait la pénibilité, c'est ces contrats courts là qui s'enchaînent les uns aux autres. Parfois, vous en avez 5, 6 dans la journée. Mais c'est des contrats avec des employeurs différents. C'est-à-dire que ils savent pas l'employeur numéro 3 de la journée. Il sait pas que vous avez travaillé pour le 2 avant et que vous travaillerez pour le 4 après. Non. Oui, mais c'est ça.
Oui. Non, ça c'est en fait nous on reçoit des messages, on nous dit il y a une mission tel jour, telle heure, tel endroit. Alors avant on nous appelait et on pouvait rappeler, maintenant on reçoit des textos ou des mails et c'est les plus rapides qui prennent la mission.
Oui, mais alors attendez, voilà. Quand vous avez fait 5 contrats dans la journée, j'ai n'importe quoi, de 2h du matin à 20h, c'est quand même à vous de dire stop, là je travaille plus, là je vais dormir.
Bien sûr, c'est nous qui prenons ou pas, mais si vous voulez, il y a des jours où des fois on travaille pas pendant 4 jours, il y a pas de mission.
Ouais.
Du coup, pour finir le mois et donner à manger aux enfants, il y a des moments bien où il faut qu'on enchaîne 2 jours d'affilée. Vous voyez, c'est ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est nous qui l'acceptons ou pas. Voilà, si on ne peut pas, si on doit partir en province pour quelques jours, eh ben on prend pas de mission. Enfin, c'est pas le souci. Là, le problème pour nous, en fait, on a découvert avec stupeur en 2022 qu'on n'avait aucun point sur nos comptes pénibilité. Pourquoi ? Alors qu'on fait plus d'heures que les gens des grandes surfaces, on fait plus de gestes répétitifs, on a des horaires plus décalés.
Et eux en ont des points de pénibilité.
Comment ?
Et vous faites la comparaison avec les gens de grandes surfaces, eux ont des points de pénibilité.
Ils les ont, eux ?
Ouais. Et le gros problème, en fait, on a découvert que c'est parce que quelqu'un avait dit, au moment de la création du compte pénibilité en 2015, qu'il fallait avoir des contrats de 1 mois minimum.
Ah.
Et nous, c'est des contrats de quelques heures.
Oui, d'accord, compris. De toute façon, vous êtes par nature même, vous avez des contrats fragiles, vous êtes dans la fragilité.
On est dans la précarité. On n'est même pas sûr, parce que les contrats, on nous les donne une semaine sur l'autre.
Hein. Ouais.
On ne sait même pas si dans 10 jours, on aura du boulot ou pas. Ça dépend des demandes et ça dépend ensuite si on est les plus rapides à répondre aux mails ou aux textos. Hein. Mais ça dépend surtout, est-ce qu'il y aura du boulot ou pas. Par exemple, on le sait très bien, pendant les soldes, on n'a pas de mission quasiment, puisque les magasins sont concentrés sur leurs soldes. On le sait. Les vacances d'été, les vacances de ski de février, on n'a pas trop de travail, on le sait, puisque les commerciaux sont en congé. C'est leur 5e semaine, bien souvent.
Donc, voilà, c'est... Ça, c'est, voilà. Donc, si on résume, ce que vous espérez, c'est que cette barrière-là, elle puisse sauter assez vite pour qu'on n'ait plus ce cadre légal qui ne permet de compter la pénibilité qu'à partir d'un contrat d'un mois.
Ben, en fait, c'est très simple. Il faudrait que les points soient attribués dès la première heure de contrat, quel que soit le type de contrat, c'est-à-dire il y a des contrats CDD, CDI, CIDD, il y a des contrats, ils existent, je sais pas combien de contrats en France, je comprends pas cette histoire-là, mais bon, quel que soit le type de contrat, quel que soit le domaine d'activité, qu'on puisse en plus cumuler les points. Nous, on a 3 facteurs de pénibilité dans nos travaux. Ben, si on fait 6 heures avec les 3 facteurs, j'espère qu'on peut cumuler les points. Je sais même pas si dans les autres métiers on peut le faire. Donc ça, c'est pas normal. Et ensuite, moi, ce que je dis, alors là, ça n'entraîne que moi, mais franchement, moi, je ne suis pas content qu'on m'ait spolié des points depuis 2015. Hein. Moi, j'ai donné tout ce que je pouvais pour faire manger ma famille, mes camarades aussi. On a fait des heures de dingue. On a des collègues, c'est des infirmières. Il y a 2-3 infirmières. Elles font leurs 36 heures. Elles enchaînent des missions pendant une journée ou deux en plus parce que elles ont peu importe, un mari qui est parti, qui paye pas la pension. Enfin, peu importe. Il faut boucler les fins de mois. J'ai je sais pas combien de retraités qui travaillent avec moi la nuit. Parce que il faut qu'ils bouclent leur retraite. On a des étudiants. On a un petit peu de tout. On a des gens qui ont besoin. Ils ont un problème. Financiers, on a plein de trucs. Et en fait, non, on n'a pas le droit. Parce que quelqu'un a décidé qu'il fallait travailler un mois, et en plus, il fallait faire, je crois, 120 heures dans la même entreprise.
Et vous espérez qu'on revienne sur cette loi pour que, dès la première heure, la pénibilité soit bien prise en compte. On a compris. Merci Nicolas. Restez avec nous si vous le souhaitez. On va accueillir Philippe pour faire tourner un petit peu la parole. Bonjour Philippe.
Bonjour Céline, bonjour Eric.
Bonjour Philippe. Vous nous appelez, donc moi aussi je me retrouve enroué. Vous m'avez donné votre...
Ah, je suis désolé.
Philippe, donc vous appelez également sur la pénibilité, puisque je le rappelle à ceux qui nous écoutent, demain c'est la dernière journée de négociation dans ce conclave des retraites, et encore une fois, apparemment il n'y a pas lieu d'être très optimiste. Donc que vouliez-vous dire dans ce contexte, Philippe ?
Eh bien ce que je voulais dire Eric, c'est que demain c'est la dernière journée de négociation, le fameux conclave, eh ben je vais vous dire, demain c'est échec au mat. Le MEDEF n'est pas d'accord, le gouvernement n'est pas d'accord, les organisations syndicales n'ont pas été capables de mettre tous les points critiques. On parle de pénibilité. Il n'y a pas de pénibilité aujourd'hui qui est vraiment reconnue. Il faut atteindre un certain seuil de pourcentage pour pouvoir bénéficier de la pénibilité. Moi, j'ai travaillé 44 ans. J'ai travaillé 39 ans et 8 mois au SAMU. Chaque métier a une pénibilité. Moi, ma pénibilité, c'était d'arriver à 20h au travail et à 20h02, je partais chercher un gamin qui s'était tué en voiture. Et le lendemain, c'était une noyade. Et après, c'était une crise cardiaque. Et après, c'était une personne brûlée dans une voiture. J'ai fait ça toute une carrière. Je n'ai pas eu un pourcentage de pénibilité. Là, c'est la faute des organisations. C'est toujours quand on arrive au pied du mur qu'il faut argumenter. Mais c'est trop tard. Ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps de mettre tous les sujets là à plat. Et François Bayrou a manipulé ça d'une main de maître. Il a fait sous-entendre au Parti Socialiste que pour les retraites, on verrait, on pourra en reparler. Mais on ne leur parlera pas du tout. Et là, vous voyez, maintenant, on ne parle même plus des 62, 63, 64, on va vers même 65, 66 ans de travail. Mais quand vous arrivez à 60 ans, Pascal, il y a des métiers où vous êtes usé, vous êtes charpentier, vous êtes chaudronnier, maçon, à 60 ans, les problèmes de santé commencent à arriver. Comment voulez-vous emmener des gens à 65 ans à travailler ? Donc ce sont des gens qui seront en maladie, et puis ils auront une décote. Et c'est ce que votre intervenant venait de dire, il y a des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de retraite, et ben ils sont obligés de retravailler à mi-temps ou quelques heures par-ci, par-là. Vous voyez, rien n'a été pris en compte. C'est le jeu de la chaise musicale. On fait croire, mais en fait, on amuse la galerie, malheureusement.
Et vous qui avez travaillé 38 ans comme au SAMU, vous n'êtes pas pris du tout en compte au titre de
absolument
la pénibilité
pas. Non, absolument pas. Et en plus, j'ai été victime d'une belle arnaque de notre gouvernement, puisque je faisais partie des carrières longues. Je devais prendre ma retraite au 1er octobre 2023. On m'a conseillé, la caisse de retraite m'a conseillé de la prendre qu'au 1er janvier 2024, parce que il y avait trop de dossiers pour les carrières longues. Donc je l'ai pris au 1er janvier 2024. J'ai dit tant pis, je vais faire 3 mois, ça va passer vite. Eh ben, je perds plus de 100 € par mois parce que je ne peux pas bénéficier de l'augmentation des 5,5. Vous voyez la belle carotte qu'on a fait ? Ah oui. À des milliers de gens qui ont des carrières longues ? Tout ça, ça a été étudié à l'avance. Et j'en veux aux syndicats et au gouvernement, bien sûr. Bon. Il est sûr qu'il faut faire des efforts, mais on ne peut pas toujours demander à ceux qui travaillent de donner le maximum pour recevoir le minimum. Vous voyez ?
Merci Philippe, merci Nicolas. Il y a fort à parier qu'on vous reparle retraite dans les jours qui viennent avec la fin de ce conclave. Donc on le rappelle, demain, dernier round de négociation pour les partenaires sociaux.
Dans un instant, nous parlons de Nicolas Sarkozy qui est déchu de sa Légion d'honneur. Est-ce infamant ou est-ce normal ? 3210.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210.
50 centimes la minute.
Partir en livre. Le festival du livre jeunesse organisé par le Centre National du Livre revient du 18 juin au 20 juillet. Partout en France, des milliers d'événements gratuits célébreront le thème « Les animaux et nous ». Lecture à voix haute, ateliers, rencontres d'auteurs, jeux littéraires rendront hommage aux petites et grandes bêtes de nos contes, albums et romans. Programme sur partirenlivre.fr.
RTL. Laurent Deutsch sur RTL. Entrez dans l'histoire.
Tout à l'heure, direction l'université de Cambridge avec des étudiants qui vont trahir sa majesté au profit des soviétiques. Les 5 de Cambridge, espions et camarades, c'est tout à l'heure à 15h dans Entrez dans l'histoire sur RTL.
Entrez dans l'histoire, c'est l'émission d'histoire la plus écoutée de France.
Noroto. 6 heures de route sans clim, l'enfer.
Heureusement que j'ai pensé aux boissons fraîches.
Bah vu la chaleur, elles vont pas tenir longtemps.
Mais si ! Avec ma glacière électrique 25 litres Noroto à 59,99€.
59,99€ ? J'y crois pas.
Si, si, la glacière électrique 25 litres Noroto est à 59,99€ avec branchement électrique en voiture ou à la maison. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude Opinionway mars 2024. Conditions en centre et sur noroto.fr.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagés. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Tout savoir sur la cardiomyopathie hypertrophique avec l'Alliance du cœur et le soutien de Bristol Myers Squibb. Pour en savoir plus sur cette maladie cardiaque génétique méconnue, rendez-vous dans un instant.
13h-14h,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet et Céline Landreau.
Je ne suis certainement pas d'accord avec tout ce qu'il a pu faire, mais il l'a mérité, cette médaille. Et je ne vois pas pourquoi on la lui enlèverait. Moi, j'associe ça à une forme d'acharnement.
On parle de Nicolas Sarkozy, le grand chancelier de la Légion d'honneur a donc tranché. Un président, un homme d'ailleurs, condamné, ne peut pas être détenteur de la Légion d'honneur. Ça s'applique à tout le monde, y compris au président de la République. Est-ce normal? Est-ce infamant? Est-ce scandaleux? Vous nous appelez au 3210, nous passons le micro tout de suite, Céline, à Jean-François. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Oui, bonsoir, bonjour plutôt Céline, Éric. Alors, moi je suis ravi que l'on supprime la Légion d'honneur à M. Sarkozy, parce que il avait dit lui-même qu'il n'était pas au-dessus des lois, il y a quelques années. Et on se plaint toujours dans cette société, et à juste titre, que la justice, notamment, n'applique pas les peines, n'applique pas les peines, ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Et bien là, il y a un règlement, on l'applique. Que ce soit Monsieur Sarkozy ou Monsieur Dupont, on l'applique. Ben, je trouve ça très bien.
D'accord.
C'est normal.
La question que ceux qui soutiennent Nicolas Sarkozy posent, c'est on n'est pas au-dessus des lois, mais ils disent mais on n'est pas non plus au-dessous des lois. Et voilà, après ça soulève la question de l'acharnement, et là je parle du camp de ceux qui soutiennent Nicolas Sarkozy, Jean-François. Voilà. Alors non, vous avez raison, s'il est condamné, les dispositions de la Légion d'honneur disent, bon ben toute personne condamnée à plus d'un an, je crois,
c'est...
On leur retire la... Très bien, bon.
Absolument, écoutez, on applique, d'habitude on n'applique pas en France, tout le monde se plaint qu'on n'applique pas les lois, qu'on n'applique pas les sentences. Mmh. Bon, alors il faut savoir ce que l'on veut, on est cohérent ou pas.
Vous avez raison.
On est cohérent ou on n'est pas cohérent?
Oui, on est cohérent. Est-ce qu'on l'a retiré, la Légion d'honneur, à tous ceux qui... je sais pas, les gens disaient que Vladimir Poutine l'a gardée...
En l'espèce, on est sur le cas Nicolas Sarkozy. Ouais. On est en France, il y a un règlement, on l'applique.
Très bien.
Point. Voilà, c'est tout.
Mais Vladimir Poutine, par exemple, qui a toujours sa Légion d'honneur, n'a pas été condamné par la justice française à une peine de prison ferme. Là, on est vraiment
française.
Sur une application automatique, comme le disait Eric, de règles qui existent.
Enfin, il a fait tirer des missiles sur des écoles, sur des théâtres, tuant des milliers de personnes.
Je ne suis pas en train de vous dire c'est très bien qu'il ait sa Légion d'honneur. Je vous dis juste que ce n'est pas la même règle qui s'applique que pour Nicolas Sarkozy et cette décision de
l'exclure.
Malgré ce qu'avait dit Emmanuel Macron, qui n'était pas favorable.
Jean-François, vous avez raison, si on joue à appliquons la règle, on peut l'appliquer, mais je veux dire, si on applique toutes les règles de la République française et toutes les lois, mais vraiment toutes, jusqu'au bout du bout, ça ressemblera à une dictature, si vous voulez pas. Moi, je pense qu'il y a la règle et qu'il y a son application, qui sont deux choses différentes. J'ai pris l'exemple de Poutine exprès, et prenons l'exemple d'ailleurs de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il a eu sa Légion d'honneur après son intervention au niveau de cette école maternelle de Neuilly, où il était physiquement entré dans l'école alors que Human Bomb prenait en otage des enfants, si vous voulez. Donc je vous dis toujours, il y a la règle, mais il y a aussi un contexte général qu'on doit prendre en compte, qui relève de l'humain, de la chair. Quand je prends cet exemple de Poutine, bien sûr, il n'a pas été condamné par la justice française, mais enfin, pour avoir couvert la guerre en Ukraine pendant 3 ans, depuis mon studio, j'étais pas sur place, mais j'ai vu toutes les horreurs qui ont été faites, surtout au début, le bombardement, encore une fois, d'installations civiles, énergétiques, des hôpitaux qui ont été touchés avec des dizaines de morts, des écoles maternelles, etc. Il y a la règle, il y a son application, Jean-François.
Oui, mais dans les cas, par exemple, de féminicide ou choses comme ça, on trouve toujours des circonstances atténuantes, toujours, et on n'applique pas les règles. Donc au bout d'un moment, appliquer toutes les règles, c'est pas forcément une dictature. Il y a des règlements, on les applique. Sinon, ça peut être l'anarchie.
Jean-François,
c'est aussi l'anarchie.
Chantal souhaitait aussi réagir sur ce sujet, on va l'accueillir. Voilà. Bonjour Chantal.
Bonjour Chantal.
Oui, bonjour. Bon, bah, écoutez, je suis ravie que vous me donniez la parole. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre auditeur précédent. C'est vrai, je viens de vous écouter, vous, monsieur, ce que vous avez dit concernant Nicolas Sarkozy pour Neuilly. Bon, ben, voilà, on devrait tenir compte de tout cela. Moi, je dis, votre auditrice précédente a dit que c'était un acharnement et elle a entièrement raison. On veut l'humilier jusqu'au bout. Parce que, si j'ai bien compris quand même, il a fait appel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, il a été condamné, c'est un fait, mais c'est suspensif. Je ne dis pas dans la punition. Mais si jamais il est reconnu non coupable, on va lui redonner la Légion d'honneur. Eh bien, écoutez, si j'étais à sa place, ce que je vais dire, ce n'est pas beau, je leur balancerai à travers la tronche et terminé. Il n'a pas besoin de ça. Vous savez, il y a une grande, grande majorité de Français qui sont toujours pour Sarkozy. Ça n'a pas été un super président, mais ça n'a pas été un mauvais président. Lorsque l'on voit les présidents suivants entre Hollande et puis Macron, je vais vous dire, on a été servi quand même. Alors, donc, eh ben écoutez, je vais terminer mon propos comme cela en disant, réellement, j'ai honte d'être française. J'ai vraiment honte quand je pense que j'ai entendu que l'on compare. On le compare pas, mais on le met à côté de Pétain. Vraiment, vraiment.
On le met pas
voilà,
à côté de.
C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà.
Les journalistes ne l'ont pas mis à côté de Pétain, Chantal.
Non.
Simplement, on a rappelé que c'était le seul.
Il a été rappelé sur les antennes, notamment la vôtre que j'écoute en boucle du matin
mais
au soir.
Continuez surtout.
Parce que je suis une fidèle auditrice. Que le premier c'était Pétain et le deuxième c'est Sarkozy.
Voilà.
On aurait pu se passer de dire
cela
de
dit,
parler de Pétain.
Cela
quand
dit,
même.
Puisqu'on convoque l'histoire, Chantal, je me souviens qu'en 2007, la Légion d'honneur de Maurice Papon avait créé une polémique parce que son avocat Maurice Papon, alors que Maurice Papon décédait à l'âge de 95 ou 16 ans, me semble-t-il, son avocat voulait que sa Légion d'honneur l'accompagne dans son cercueil. Et ça avait fait un vrai tollé. Et il me semble que, de mémoire, qu'effectivement Maurice Papon s'est fait enterrer avec sa Légion d'honneur.
Alors voyez, c'est ce que vous disiez.
Quand il y a une polémique, on convoque toujours la Seconde Guerre mondiale et tous ces affres. Je ne sais pas si c'est bien utile, mais bon, c'était un souvenir que j'ai.
Mais bien sûr, et c'est pour ça tout à l'heure je vous ai rendu hommage en disant, lorsque vous avez parlé de Neuilly, et qu'il y a deux poids, deux mesures, il faut savoir de temps à autre reconnaître certaines choses, vous comprenez, parce que, en fin de compte, l'histoire de Sarkozy, pas vu, pas pris pour beaucoup, hein, vous le savez comme moi, hein. Bon, c'est normal, s'il a fait quelque chose de mal qu'il paye, mais on n'a pas l'humilié comme ça, non là je suis d'accord, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
Et réellement,
je vous répète que j'ai honte d'être française par moment. J'ai vraiment très honte.
Jean-François est toujours là, il va vous répondre. Allez-y, Jean-François.
Oui, alors moi, je voudrais répondre à cette dame qui est en l'occurrence charmante et qui a beaucoup de caractère. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai honte d'être français dans ce contexte-là et dans d'autres, dans le sens où on n'applique pas les règlements et les peines, et que les règlements, on s'en fiche. Voilà, donc j'ai honte d'être français dans un pays comme ça. Voilà, c'est mon opinion,
écoutez,
et je m'y tiens. Voilà.
Eh ben écoutez, chacun reste sur ses positions.
Absolument.
Mais vous savez, quand on a vu ce qui s'est passé à la Coupe d'Europe, vous croyez pas qu'on n'a pas honte d'être français là, hein? Et les garçons, ces gamins, et même des adultes condamnés à 2 mois avec sursis et patati et patata, vous direz, le problème n'est pas là, ils n'ont pas la Légion d'honneur,
voilà,
ils n'ont jamais.
Mais
la justice, vous savez. Non, je crois qu'à Sarkozy, on lui fait payer beaucoup de choses. Et que malheureusement, j'ai l'impression que tout ce qui est judiciaire actuellement arrose sur Sarkozy. Bon, j'aime bien Sarkozy, je ne m'en cache pas, mais je reconnais qu'il n'a pas été brillant.
Non, vous nous l'avez
surtout,
dit que ce n'était pas forcément.
Mais
le...
Il faut quand même lui reconnaître certaines choses qu'il a faites, notamment quand il y a eu la crise financière. Il nous a quand même permis de ne pas tomber dans le gouffre Et pour cela, bon, ben, on peut lui en être reconnaissant. Voilà. Mmh.
Et si ça avait été François Hollande à la place de Nicolas Sarkozy, Chantal, auriez-vous enfourché votre fier destrier pour le défendre également, Chantal?
Oh, ben non, parce que c'est un mou, j'aime pas les mous, moi, alors, vraiment. Voilà, moi j'aime les gens combatifs, alors donc, bon ben c'est tout. Mais Hollande n'a pas fait que des mauvaises choses, mais je vais vous dire, je ne sais pas vos auditeurs s'ils le savent ou s'ils en sont conscients, mais moi notamment, moi je suis veuve maintenant, bon, j'ai plus le droit à différentes choses sur ma déclaration d'impôt, et notamment, je me souviens plus quoi exactement, mais il y a différentes choses dont je n'ai plus le droit parce que Monsieur Hollande a dit, oh ben non, maintenant, ah bah alors là,
cela dit, Chantal, bon. Au moment du quinquennat de François Hollande, il y avait eu une affaire également de surfacturation de frais de campagne de François Hollande, qui avait d'ailleurs conduit à la démission d'un de ses secrétaires d'État. Il y avait eu un scandale, voilà, dont on a moins parlé, qui n'a pas conduit à une condamnation de François Hollande, bien sûr. Mais voilà, il faut aussi se souvenir hein, des affaires judiciaires. Il n'y a pas que Nicolas Sarkozy qui est dans le viseur de la justice. Voilà, 13h25.
Le cycle de débat est passionné et on va le continuer dans quelques minutes avec vous, évidemment, 32-10.
Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime, c'est à 14h sur RTL.
Absolument, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jean-Alphonse.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, une enquête vraiment dans le désordre. C'est l'affaire très étrange de Bénédicte Belair. En 2017, son compagnon la découvre morte chez elle, dans l'Oise. Ben, l'enquête, elle est express, elle est bouclée très très rapidement. Bénédicte Belair a fait une chute. Voilà, c'est dit. On n'ira pas plus loin, sauf que sa sœur Sylvaine va pas du tout croire à ce scénario. Elle va se procurer les pièces d'enquête, et notamment l'autopsie. La victime est couverte de 50 hématomes. Elle a un coup sur le crâne. Et pourtant, la justice ne va pas bouger. C'est toujours une chute, et rien qu'une chute. On va s'apercevoir dans le détail qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce dossier. Le compagnon, d'abord, a déjà été condamné pour violence conjugale sur Bénédicte. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. On s'aperçoit aussi qu'un enquêteur, c'est quand même rarissime, a rédigé de faux procès-verbaux pour truquer l'enquête. Et puis, il y a un autre gendarme qui a tout fait pour que les scellés soient détruits. Bon, ça fait un peu beaucoup, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, la sœur se bat encore pour la vérité, pour que ça ne soit plus classé à une chute, mais pour violence conjugale. Que cache donc cette enquête sur la mort de Bénédicte Belair? Je vous dis tout à 14h dans l'heure du crime.
À tout à l'heure, Jean-Alphonse.
À tout à l'heure, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ces échanges, de ces débats dans les auditeurs ont la parole, la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy.
Jusqu'à 14h,
Éric Brunet, Céline Landreau vous donnent la parole sur RTL.
Venez découvrir Je n'aime pas le classique, mais avec Alex Vizorek, j'aime bien à la scène musicale.
Oui, et Alex Vizorek, c'est moi. Je vais vous faire aimer la musique classique. Mais rassurez-vous, à ma façon, avec humour, un soupçon de pédagogie et surtout des musiciens incroyables. On va rire, on va apprendre, on va écouter du très bon son classique. Et même si vous pensez que vous n'aimez pas ça, celui-là, je vous promets, vous aimerez.
Je n'aime pas le classique, mais avec Alex Vizorek, j'aime bien le 20 juin à la scène musicale avec RTL.
Tout savoir sur...
Fortunéo lance un plan d'épargne retraite pour préparer sa retraite tout en réduisant ses impôts. Quelles sont ses spécificités et ses avantages? Réponse dans un instant.
Il y a des choses que je n'ai jamais dites à ma famille. J'ai effacé notre cassette de mariage en enregistrant du foot. Ce n'est pas le chien qui a cassé le vase, c'est mon coude. Et quand je dis que j'aime les réunions de famille, c'est surtout pour le dessert.
On peut ne pas tout dire à ses proches. En revanche, leur dire qu'on est donneur d'organes, c'est important. Le don d'organes sauve des vies. Alors rappelez à vos proches que vous êtes donneur. Ceci est un message de l'Agence de la biomédecine, agence relevant du ministère de la Santé.
Leclerc, bonjour.
Allô, oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis inquiet.
Ah bon, mais qu'est-ce qui vous arrive?
Ben voilà, j'adore les yaourts Père de lait, alors je vous en ai pris 2 packs. Mais là, j'en bois 3 dans mon frigo. Est-ce que c'est normal?
Oui, oui, c'est normal. C'est Leclerc. Car du 17 au 28 juin, pour l'achat de 2 packs de 4 pots de perles de lait vanille, le 3e est offert.
Ah, vous m'avez rassuré.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Lait Origine France, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Tout savoir sur...
Total Energy mise sur la production et la distribution de SAF ou carburant d'aviation durable pour aider à décarboner le transport aérien. On vous en dit plus dans un instant.
Céline Landreau et Éric Brunet.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je trouve tout à fait normal qu'on la lui retire. Il était censé, en tant que président, faire respecter les lois, donc il doit lui-même les respecter. S'il ne les respecte pas, il doit être jugé et condamné comme n'importe quel autre citoyen. Et je trouve que la justice doit être la même pour tous.
Que la justice soit la même pour tous, c'est Liliane qui nous laisse ce message. On va prendre Chris maintenant, qui a fait le 32-10. Chris, bonjour.
Oui, allô.
Bonjour Chris, vous aussi vous vouliez réagir à cette exclusion, on l'a appris hier matin, l'exclusion de la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy, déchu après sa condamnation définitive dans l'affaire dite des écoutes.
Eh bien écoutez, moi je ne suis pas comme la dame d'avant, je n'ai pas du Sarkozy plein la bouche et je n'ai pas honte d'être français. Quoi qu'il en soit, je suis entièrement pour lui retirer non seulement sa Légion d'honneur, car il ne la mérite plus, et deuxièmement, lui retirer tous ses avantages d'ex-président. Car un homme qui a fait de telles choses, et je ne vais pas vous les énumérer les uns après les autres, mais ne mérite pas d'avoir encore une considération de la République. Aussi bien que financièrement que matériellement.
Donc vous seriez pour qu'on aille au-delà même des lois, pour qu'on
absolument.
Qu'on soit plus dur encore avec Nicolas Sarkozy.
Absolument.
D'accord. Quand vous dites qu'il a fait de telles choses, c'est-à-dire à quoi pensez-vous, Chris?
Il y a l'affaire en cours, il y a l'affaire Kadhafi, il y a d'autres affaires. Donc voilà. Mais pas non plus jeter de l'huile sur le feu, et puis je vais aussi un peu laisser la parole à d'autres auditeurs. Mais un président qui a fait de telles choses, peu importe la chose, à la limite, à partir du moment où il ne respecte pas la République, où il ne respecte pas le peuple de la République...
Oui, mais sur l'affaire Kadhafi, le jugement n'a pas été prononcé, on ne sait pas encore.
Tout le monde le sait.
Non, mais vous le savez sans doute. Moi, non.
On sait qu'il est présumé innocent jusqu'à une éventuelle condamnation.
Présumé innocent. C'est un bel article de la loi, ça, présumé innocent.
Mais comment vous savez que... Donc, vous savez qu'il a pris des milliards de Kadhafi, des millions de Kadhafi, mais vous avancez pas, hein. Ne vous avancez pas. C'est pas...
C'est une hypothèse.
Il y a aujourd'hui, dans le réquisitoire tel qu'il a été lu de plusieurs dizaines de pages, moi je l'ai lu, il n'y a pas d'éléments probants qui disent que... Il y a un faisceau, disent les juges, d'éléments, mais il n'y a pas de preuve absolue de cela.
Vous savez bien comme moi que certaines preuves peuvent disparaître. Qu'elles soient aussi bien vocales qu'écrites, elles peuvent disparaître.
Je vous souhaite de ne jamais être injusticiable avec un juge qui dit « Écoutez, Chris, il n'y a pas de preuves, elles ont peut-être disparu, mais je vous condamne. » Et je ne vous le souhaite pas, hein, parce que...
Non, mais attendez, je suis aussi d'accord. Mais le problème, il est que il ne doit plus avoir tous ses avantages à part quoi qu'il en soit.
Vous aimeriez que ça ne se limite pas à l'exclusion de la Légion d'honneur, si on vous suit bien, Chris.
Voilà,
pour vous, c'est un premier pas, mais il en faut même plus, quoi.
Je n'affirmais pas qu'il était quelque chose contre Sarkozy. C'était une hypothèse, c'est hypothétique. Mais à partir du moment où un président a fait quelque chose contre l'État, contre la République et contre le peuple français, il doit être déchu de sa Légion d'honneur et il doit être déchu de tout privilège d'ex-président.
Oui, mais ça se tient comme théorie. Je comprends ce que vous pensez.
D'être peut-être aussi dur que ça. Hein. On connaît un ancien président qui avait... Valéry Giscard d'Estaing, qui a quand même fait passer des vessies pour des lanternes avec les amourniqueurs, et il a quand même coûté énormément cher à la France, hein, tout en ayant fait ce qu'il a fait, hein, si vous avez bonne mémoire aussi. Donc voilà, je ne trouve pas ça justifiable que ces gens-là, à partir du moment où ils ont fait quelque chose, hein, aient toujours le droit à des privilèges d'ex-président. Ex-président ou ex-député. Voilà.
Merci Chris pour cette opinion.
Je vous remercie de m'avoir écouté
sur l'antenne d'RTL.
Et je salue tous les auditeurs.
Eh ben, on va s'associer avec vous Chris pour saluer Dominique qui nous a rejoint. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour. Alors moi, je suis contre l'internement. Je suis contre la...
On vous entend très mal, Dominique. On vous entend très, très mal.
Comme l'a si bien dit Eric, la Légion d'honneur ne lui a pas été remise comme président de la République. C'est pour un acte héroïque qu'il a fait à Neuilly. Il a sauvé des enfants. Ça, personne, tout le monde l'oublie. C'est Eric qu'on a parlé. Hein? Il a eu le courage de rentrer dans une école pour sauver contre un terroriste. Parce que celui qui était là, c'était un terroriste. Ça, personne, tous ceux, les détracteurs qui viennent de parler contre Monsieur Nicolas Sarkozy, l'oublient ça. Et c'est pas un président de la République qu'on a mis ça. C'est un maire, le maire de Neuilly. Et il y en a d'autres. En plus, on le met au même niveau que Pétain, qui a vendu la France aux Allemands. Même si on n'oublie pas de dire que c'est le deuxième président à qui on a enlevé la Légion d'honneur. Le premier, c'était Pétain. Ah bah oui, c'est une référence, Pétain.
Et alors attendez, c'est vrai que alors bon, on va oublier Pétain parce que c'est toujours un peu embêtant quand on fait. D'abord, il n'était pas président de la République, il était chef de l'État français, c'était plus la Troisième République, mais j'entends ce que vous dites, mais c'est vrai que quand on regarde, Dominique, je vous rends le micro tout de suite, hein. Quand on regarde des gens à qui on l'a enlevé, par exemple, Lance Armstrong qui a gagné je ne sais plus combien de fois le Tour de France et qui a avoué avoir été dopé, Bachar al-Assad, Jacques Crosemary, ce sont des gens qui ont accompli des actes éminemment, condamnables, Dominique, là, clairement condamnables.
Non, mais attendez, on a bien dit sur votre antenne, et moi ça je l'ai entendu, que c'est le deuxième président de la République de l'histoire après Pétain.
Le deuxième chef d'État alors, oui.
Deuxième chef d'État, le deuxième de ce que vous voulez. Alors mettre M. Nicolas Sarkozy en comparaison avec un qui a vendu la France aux Allemands, excusez-moi, mais c'est humiliant pour lui. Et alors qu'en plus, on a parmi la Légion d'honneur un président de la République, c'est un maire qui a sauvé des enfants contre un terroriste qui avait des bombes et qui s'apprêtait à faire sauter une école.
On entend votre colère, Dominique.
Colère,
Dominique. Je suis sincère. Je propose qu'on poursuive le... Damien me fait signe que non, on n'a plus le temps.
On ne poursuit
pas ce tour de table, on va... parler d'autre chose dans un instant, Eric.
Oui, on va parler d'erreurs médicales, figurez-vous, mesdames, messieurs. Merci pour vos témoignages passionnés. Hein. De toute façon, dès qu'on évoque Nicolas Sarkozy, c'est toujours des débats passionnés. Allez savoir pourquoi la personne de Nicolas Sarkozy déchaîne à ce point les passions. Merci de vos appels. Nous allons parler maintenant d'erreurs médicales, parce qu'il s'est passé quelque chose à Reims d'assez dingue. Un laboratoire médical a inversé les dossiers de deux patientes, diagnostiquant un cancer de l'utérus à une patiente qui était en pleine forme, en réalité. Elle a été opérée, on lui a retiré l'utérus pour rien. Elle a porté plainte, bien sûr. Mais avez-vous vous-même, vous ou vos proches, été victime d'erreurs médicales? Parlons-en et parlons aussi des conséquences, bien évidemment, au 3210.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute.
Tout savoir sur...
Avec Fortunéo, préparer sa retraite tout en valorisant son épargne, c'est désormais possible grâce à son nouveau plan d'épargne retraite. Amandine Regissard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable des produits de placement chez Fortunéo. Un PER, c'est quoi exactement?
Alors, c'est une solution pour épargner pour la retraite et réduire ses impôts dès aujourd'hui. Chaque euro versé réduit le revenu imposable jusqu'à 10%. Et l'imposition, elle, ne s'applique qu'au moment des retraits, à la retraite notamment.
C'est donc intéressant pour les indépendants.
Et pour tous ceux qui prévoient une baisse de revenus et de fiscalité à la retraite. Donc, pas mal de monde.
Et pourquoi choisir Fortunéo?
Déjà, notre PER est accessible dès 100 euros, sans frais d'entrée ni de versement. Et côté rendement, pour le fonds en euros en 2024, c'est 3,20% net de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux.
Merci Amandine.
Merci.
Plus d'informations sur le contrat sur fortunéo.fr. Fiscalité en vigueur au 1er janvier 2025, susceptible d'évolution. Ce produit comporte un risque de perte en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
RTL.
Recruter une personne de plus de 50 ans ? Jamais de la vie.
Ah, moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai recruté Sophie, 55 ans, pour être vendeuse dans mon magasin. Grâce à son expérience, elle donne des conseils très pertinents et elle sait s'adapter aux besoins des clients.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement. Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagés. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. C'est sur la 12.
On peut penser que pour partir en vacances en famille avec une voiture neuve, on doit attendre des mois et des mois. Ou on peut choisir Dacia Jogger, disponible immédiatement chez votre concessionnaire pour profiter des vacances d'été. En 5 ou 7 places, avec motorisation hybride ou GPL, vous n'avez plus que quelques jours pour profiter d'offres très avantageuses sur une sélection prête à partir.
Offre particulière jusqu'au 30 juin seulement, dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Dacia participant. Au quotidien, prenez les transports en commun.
13h-14h.
Les auditeurs ont la parole.
Avec Éric Brunet et Céline Landreau.
Je trouve qu'on ne parle pas assez des erreurs médicales. Franchement, un laboratoire d'analyse médicale a inversé les dossiers de deux patientes. On est dans la région de Reims, là. Diagnostiquant un cancer de l'utérus à une patiente qui était en pleine forme et disant à la patiente qui était en pleine forme qu'elle avait un cancer. Vous imaginez ? Donc, on a inversé les dossiers. Résultat, on a retiré l'utérus pour rien à une dame qui était en pleine forme. Voilà, et bien évidemment, elle s'en est rendue compte un peu plus tard, lorsque le laboratoire d'analyse médicale a réalisé qu'il avait fait une erreur et cette patiente a porté plainte. Vous nous appelez sur ce sujet des erreurs médicales.
Et vous êtes d'ailleurs déjà plusieurs à nous avoir appelés, à avoir témoigné, laissé un message sur le répondeur des auditeurs ont la parole. C'est le cas de Solange qui nous a livré son témoignage. On n'a pas réussi à la joindre à nouveau pour l'entendre en direct. Donc on vous propose d'écouter ce message qu'elle nous avait laissé sur le répondeur. Solange.
Il y a quelques années, je devais me faire opérer de l'utérus, subir une petite intervention dans une clinique à Toulouse. Je suis rentrée le matin, j'ai fait le protocole qu'il y avait à faire. Le brancardier est ensuite venu me chercher. On m'a installée dans la salle d'opération. Et avant, juste avant de m'endormir, je fais une crise d'angoisse. Donc l'infirmière me gronde et je lui dis « Mais vous savez, ça m'embête, cette opération de l'utérus, quand même, ça m'angoisse. » Et là, l'infirmière me dit « Mais comment l'utérus ? Vous n'êtes pas ici pour vous faire opérer de l'utérus. Vous êtes ici pour vous faire opérer des varices. » « Ah non, madame !» Pas du tout, je n'ai pas de varices. Donc, bras le bas de compas, ils s'étaient trompés de personne. Ils ont mis 1h30 à me mettre dans le bon bloc d'opération. Inutile de vous dire que je ne voulais plus me faire opérer, je voulais absolument partir. J'ai quand même vu le chirurgien que je connaissais, qui est venu, qui m'a rassurée. Et on m'a endormie à ce moment-là, mais je ne voulais pas qu'on m'endorme avant d'avoir vu le chirurgien pour être sûre qu'on m'opère bien de l'utérus. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisque le soir, quand je suis remontée en chambre, l'infirmière est venue et m'a voulu me mettre les bas de contention suite à mon opération des varices. Et maintenant, chaque fois que je dois subir une intervention, je fais très, très, très attention. Je dis bien mon nom, pourquoi je suis là et quelle opération je dois subir. Bonne journée à tout le monde.
Mais quelle histoire délirante. Merci Solange de nous avoir laissé ce message aussi clair. Mais même après l'opération, quand l'hôpital ou la clinique s'est rendu compte qu'il y avait une erreur, même après l'opération, on vient lui porter des bas de contention pour les varices alors qu'elle est opérée pour l'utérus. Non mais c'est absolument délirant. Merci pour votre message Solange. Nous accueillons maintenant Annie.
Bonjour Annie.
Oui, bonjour.
Vous avez été...
Bonjour Céline.
Vous aussi, oui. Annie, victime d'une erreur médicale ?
Oui, tout à fait. Tout cela s'est produit récemment. Il y a environ un mois, je devais être opérée de tumeur bénigne. J'étais classée en ACR4. Et la veille de l'intervention, on a dû mettre un fil métallique dans le sein. Suite à cela, le compte rendu prouvait que j'étais en ACR6. D'accord. Donc, le lendemain, j'ai eu l'opération. Et on m'a dit, oui, effectivement, vous avez un cancer. Donc, je suis allée vendredi, récemment, pour la consultation post-opératoire. Et là, on me dit, mais non, ce n'est pas cancéreux. Voilà, donc ça a transformé un petit peu ma vie parce que bah, déjà mon entourage qui était inquiet.
Et oui, puis, donc vous avez eu un cancer pendant plusieurs jours. Pendant quelques jours, vous avez eu un cancer.
Je l'ai eu pendant 3 semaines.
Pendant 3 semaines, ouais. Oula.
Voilà, et oui, donc ça bouleverse quand même beaucoup de choses. Je vis seule. Je pensais à faire des préparatifs pour tout liquider puisque j'étais 3 semaines avant en ACR4. Et je passe en ACR6, ce qui est grave. Et voilà, donc je me suis dit, c'est peut-être un cancer évolutif et peut-être dans 3 mois, je ne serai plus là. Vous voyez ?
Pour quelles raisons se sont-ils trompés ? Est-ce qu'ils se sont excusés ?
Je ne sais pas. En fait, lorsque j'ai vu la chirurgienne, donc vendredi, qui m'a opérée, simplement, elle m'a dit non, vous n'avez pas de cancer. Donc, je lui montre bien le document, ACR6. Elle me dit non. Et elle prend la feuille et elle me dit, je peux la déchirer. Et moi, j'ai dit oui. Et je pleurais. J'étais très mal parce que c'est quand même un coup dur. Je n'avais pas pleuré jusqu'à maintenant. Et puis là, je crois que mes nerfs ont lâché. Et voilà, quoi. Et c'est très pénible. Et là, j'avoue que j'ai du mal à m'en remettre de cette situation. Je devrais être contente à me dire, oui, il n'y a pas de cancer. Mais finalement, je suis un peu dans le doute, vous voyez.
Oui, il reste ce stress quand même.
Parce que malgré tout, c'est marqué. Malgré tout, c'est marqué ACR6.
Oui.
Voilà où j'en suis aujourd'hui.
Je comprends, Annie, il m'est arrivé exactement la même chose, moi.
Oui.
Un radiologue qui s'est trompé, et j'ai fait tous les examens. Et j'ai passé comme vous 15 jours, 3 semaines avec, années, avec un gros point d'interrogation au-dessus de la tête.
Bien sûr. Ouais. Ah, ça bouleverse la vie quand même.
Ouais. Merci pour votre témoignage, Annie.
Merci beaucoup, Égric. Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous.
Et on va accueillir Nicole. Merci, Annie. Bonjour, Nicole.
Bonjour Nicole, avez-vous été victime, vous aussi, ou un de vos proches, d'une erreur médicale, d'une erreur de diagnostic, par exemple, Nicole ?
Alors, c'est plutôt le combat que je mène actuellement avec l'aide de l'avocat pour arriver à prouver que ma fille a été victime d'une erreur médicale. Je reprends depuis le début, ma fille était dépressive. Oui. Elle était suivie par un psychiatre. Le traitement ne fonctionnait plus bien. Il lui avait dit, la prochaine fois que vous viendrez, nous changerons de traitement. Alors, elle est allée le voir, il lui a donné une ordonnance, et comme elle faisait à chaque fois, elle est allée chez le pharmacien, elle a pris les médicaments, elle a commencé ce nouveau traitement le 12 décembre 2020, et moi, je l'ai retrouvée décédée le 14 décembre 2020, donc 2 jours après. Le fait est que la difficulté que je rencontre actuellement... Alors, le fait, c'est que ma fille, le psychiatre lui a remis une ordonnance qui ne la concernait pas, d'une autre patiente qui, elle, était victime de crise d'épilepsie et de bipolarité.
Donc les médicaments prescrits ne correspondaient pas du tout à votre fille avait l'habitude de prendre.
Voilà.
Vous êtes sûre de ça ? C'est-à-dire que sur l'ordonnance, autre nom que votre fille ?
Oui, tout à fait. Et c'est bien la carte vitale de ma fille qui a été passée au dos de cette ordonnance.
Oui.
Donc, il y a vraiment eu... Alors, elle allait toujours chez le même pharmacien. Donc, il aurait dû voir quand même que le traitement ne correspondait plus du tout. Et qu'il n'y a pas eu d'obstacle du tout. Elle est revenue avec ses médicaments. Et elle a pris la posologie le 12 décembre. D'après le manque de médicaments dans les boîtes, elle a pris la posologie d'une seule journée de traitement de cette autre patiente.
D'accord.
Donc, est-ce que ce sont ces médicaments, parce que c'était quand même des antipsychotiques, antiépileptiques, des psychoanalyptiques, enfin, il y a de tout là-dedans. Il y a des benzodiazépines. Et donc, est-ce que ce sont ces médicaments qui ont provoqué le
passage à l'acte.
Un malaise.
Attendez, elle est décédée comment ? Elle est décédée comment ? Pardonnez-moi d'être...
Eh bien, c'est moi qui l'ai retrouvée. Elle était décédée, elle était tombée en bas de son canapé. Alors, évidemment, la police est venue, il y a eu une enquête, mais on n'a pas jugé bon à l'époque de faire une autopsie. C'était 14 jours, c'était 10 jours pardon, avant Noël. Donc, tout le monde était parti plus ou moins. Donc, on n'a pas fait les examens nécessaires à ce moment-là. Et il s'avère qu'on n'a fait qu'une prise de sang.
Donc vous, votre lecture des choses, Nicole, c'est que c'est le traitement qui l'a tuée, c'est qu'elle a mis un terme à ses jours.
Non, pas du tout, pas du tout. Elle a pris les médicaments qui avaient été prescrits en pensant que c'était pour elle. Je suppose, hein, parce que.
Et le corps n'aurait pas supporté.
Elle a bien pris la dose qui était prescrite.
Voilà, d'une journée.
D'une journée, oui.
Et puis en fait, on n'a pas eu de coup de téléphone. Alors. Elle est morte, je pense qu'elle a dû mourir d'une insuffisance respiratoire. Mmh. Et sur toutes les notices de ces médicaments, il est bien indiqué que ça peut provoquer ce genre de malaise. Donc, c'est l'insuffisance respiratoire qui aurait fait qu'elle est morte étouffée.
Pourquoi ? Et le psychiatre, le médecin qu'elle a vu, vous lui avez parlé ? Enfin, il y a une erreur, une inversion des prescriptions.
Ah oui, mais ils ont été, lui et le pharmacien, ont bien été convoqués au commissariat suite à la plainte que nous avons déposée après.
Oui.
Mais donc, eux ne nient pas, ils ne nient rien du tout. Ils sont d'accord avec l'erreur. Ils reconnaissent avoir commis cette erreur. Donc, le problème, c'est que lorsque l'on interroge des gens du secteur médical, on va leur dire, ma fille a pris ci ou a pris tel médicament ou tel médicament. Oui, mais elle n'a pas pris la dose, une dose assez importante. Donc, si vous voulez, il faut arriver à prouver que c'est bien ça qui a provoqué le malaise qui a entraîné le décès.
Les praticiens reconnaissent l'erreur à chaque fois, mais pas forcément le lien de causalité entre l'erreur de l'ordonnance et de la remise des médicaments à la pharmacie et le décès de votre fille.
Voilà. Et par contre, bon, on aurait pu en rester là dans la mesure où ils avaient reconnu leur erreur, mais ça va leur donner quoi à eux ? Juste un blâme.
Quel âge avait votre fille ?
Elle avait 54 ans et moi j'en ai 78. Donc ma fille avait une petite fille. Maintenant, il manque, si vous voulez, il y a un énorme manque quand même, parce qu'il manque une branche, si vous voulez. Moi, je me sens un peu responsable de ma petite fille et de mon arrière-petite fille, parce qu'elles n'ont plus d'autres membres de famille, quoi, pratiquement. Donc, il n'y a plus la grand-mère qui est là et c'est difficile à supporter, à vivre.
Merci Nicole pour ce témoignage. On parle d'erreur médicale, on est au cœur de l'erreur médicale. Encore une fois, il y a un échange, une inversion dans les prescriptions. Le psychiatre, voilà. Merci à vous Nicole pour ce témoignage. Je salue l'arrivée d'Isabelle. Ma chère Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, vous aurez la parole dans un instant, Isabelle.
Céline Landreau et Éric Brunet.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Tout savoir sur la cardiomyopathie hypertrophique avec l'Alliance du cœur et le soutien de Bristol Myers Squibb. Inconnue des Français, la cardiomyopathie hypertrophique est une maladie cardiaque qui touche environ une personne sur 500. Laurence, vous en êtes atteinte. De quoi s'agit-il ?
C'est une maladie héréditaire. En fait, les parois du muscle cardiaque s'épaississent, ce qui peut gêner la circulation du sang vers le corps et entraîner des complications comme l'insuffisance cardiaque ou l'AVC.
Quels sont les symptômes ?
L'essoufflement. Monter des escaliers ou porter un pack d'eau devient insurmontable. Et aussi des douleurs dans la cage thoracique et même des pertes de connaissance.
Et que conseillez-vous ?
Si vous êtes essoufflé, consultez votre médecin. Les progrès récents peuvent améliorer notre quotidien et éviter des conséquences graves.
Merci Laurence.
Merci.
Plus d'infos sur bms.com/fr.
RTL.
Que vous soyez plutôt politique avec Étienne Jernel.
Si l'Allemagne peut se permettre d'investir, c'est que sa dette publique est seulement 62% du PIB. Nous sommes à 113.
Ou humour avec Philippe Cavrivière.
Je rappelle que Claude a accompagné plus de 4000 malades vers la mort. Pardon, le gars, dès qu'il suit quelqu'un.
Votre grande tranche d'info, c'est RTL Matin, 7h-10h.
Alors, monsieur, bonne nouvelle, vous êtes bien éligible à l'aide pour rénover votre logement. Il me faut juste votre numéro fiscal pour l'activer.
Là, maintenant ?
Oui, non, mais c'est normal, hein, c'est une formalité.
Mais
le problème, c'est que si on l'active pas aujourd'hui, vous pourrez plus bénéficier de cette aide.
Bon, écoutez, j'aime pas qu'on me presse, j'ai besoin d'un autre avis.
Un numéro fiscal, c'est confidentiel et ce n'est pas pour les escrocs. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
Allopneus.com.
Vos pneus doivent être remplacés, mais le faire en ligne? Ouais, vous savez pas trop. Sur allopneus.com, rien de plus facile, même la toute première fois. Je rentre mon immatriculation, je valide mes pneus, je prends rendez-vous pour le montage dans l'un des 6000 garages partenaires ou directement à mon domicile, et hop, c'est fait.
Et pour votre première fois, découvrez la marque Vredestein, les pneus haute performance au meilleur rapport qualité-prix.
Allopneus.com.
Si simple de faire changer ses pneus.
Ça a glissé, la voiture se retrouve dans le fossé.
Quand Stéphane a eu son accident, Maxime, son agent mutuel de Poitiers, était là pour lui.
Je lui dis, écoute, t'inquiète pas, on va gérer ça ensemble. T'es pas tout seul, en fait.
Et là, à partir de là, déjà, la pression commence à redescendre, quoi.
C'est un père de famille, il a sa femme, sa fille sur le bord de la route. On se met à leur place parce qu'on les connaît et qu'on les voit plusieurs fois par an. Donc, c'est à partir du moment où on les connaît le mieux qu'on les assure le mieux, quoi.
Et c'est ça le gros point fort, en fait. Je suis une personne, je suis pas un numéro de contrat.
Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout.
Tout savoir sur
Total Energy mise sur la production et la distribution de SAF, ou carburant d'aviation durable, pour aider à décarboner le transport aérien. On vous en dit plus dans un instant.
Les auditeurs ont la parole.
Éric Brunet et Céline Landreau sur RTL.
Mesdames, messieurs, nous parlons des erreurs médicales et nous sommes avec Isabelle qui a fait le 3210. Isabelle, rebonjour, vous avez le micro, on vous écoute. Qui êtes-vous, que faites-vous dans la vie?
Rebonjour, je suis infirmière de bloc opératoire, c'est-à-dire que j'ai suivi une spécialisation après le diplôme d'infirmière. Et moi, je vous appelais, d'abord, je présente mes excuses à toutes ces personnes pour qui il y a eu des erreurs en chirurgie. Je trouve ça assez terrifiant. Je pense que si on mettait, vous n'êtes pas sans savoir en effet qu'il manque du personnel dans les hôpitaux, mais si on mettait du personnel qui a les bons diplômes et pour lesquels il est formé, formé pendant quand même 2 ans en plus du diplôme d'infirmière, peut-être que ça irait un petit peu mieux parce que nous apprenons les checklists, nous apprenons les problèmes juridiques, en plus bien sûr des chirurgies, mais on sait gérer ce genre de problème.
D'accord. Vous avez déjà été confronté à ce genre de problème justement de l'erreur?
J'ai été une fois.
Que s'est-il passé?
Eh bien, le patient avait été préparé par le médecin étudiant étranger qui était présent dans la salle d'opération et il s'était trompé. Il avait rasé le patient sur la tête du mauvais côté.
Ah, c'était pour une intervention sur le cerveau, c'est ça?
Tout à fait.
Et donc, comment vous vous en êtes rendu compte?
Bah parce que j'étais en train de préparer ma table et que j'ai levé le nez pour regarder les radios, les clichés, et que il y a quelque chose qui m'a semblé bizarre, et je me suis retournée et je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas aux clichés que je voyais. C'est pour ça que je maintiens que nous sommes nombreuses à maintenir qu'il faut avoir, il faut être formé pour ce métier. Les infirmières n'apprennent pas ça dans les écoles d'infirmières, elles sont formées dans les salles d'opération, elles sont pour certains très bien formés, j'ai participé à leur formation. Mais il me semble que quand on a les diplômes et qu'on a les connaissances, on y arrive quand même mieux.
Ah oui, heureusement que vous avez fait la checklist et que vous avez levé le nez, parce qu'il aurait été opéré sur le mauvais hémisphère du cerveau, vous imaginez.
On a un peu du mal, peut-être n'étant pas dans le milieu médical, Isabelle, à comprendre. Quand on vient se faire opérer du cerveau, on imagine que tout le monde revérifie. Quand même.
Ah, mais c'est pour ça que je vous parle de la checklist. Normalement,
y compris
quand un
le
patient...
chirurgien, non?
Alors, quand un patient arrive en salle d'opération, normalement, le chirurgien est là avant que le patient soit admis.
Donc, il peut lui parler, lui demander qu'est-ce qui vous emmène.
Oui, sauf qu'on fait quand même beaucoup d'interventions. Il faut gagner de l'argent. L'hôpital, maintenant, doit être un lieu de rendement. Et donc, les patients sont parfois endormis et le chirurgien finit une intervention à côté ou n'est pas encore descendu de son bureau.
Ça me fait penser à l'aéronautique, Isabelle. On dit toujours que quand il y a un accident d'avion, c'est parce qu'il y a une succession de fautes. Oui. C'est jamais une faute, c'est jamais une erreur.
Oui.
Si vous n'aviez pas vérifié, si le chirurgien n'avait pas vérifié, le gars qui s'est trompé, qui a rasé le mauvais bout du crâne, donc finalement, plusieurs fautes auraient amené à l'erreur médicale, quoi.
Oui, c'est pour ça qu'il y a une checklist. On remplit, on a des questions auxquelles nous devons répondre et que nous demandons au patient avant qu'il soit endormi. Et une fois qu'il est endormi, on doit à nouveau faire des vérifications, y compris avec l'opérateur et avec le médecin anesthésiste. Mais on accepte, personne ne dirait qu'il ne faut pas d'infirmière spécialisée en anesthésie. Par contre, il est accepté qu'il n'y ait pas d'infirmière spécialisée en salle d'opération.
Oui, tout à fait. Oui, compris. Donc, les moyens, c'est important. Et puis, c'est pas que les moyens, hein. C'est des moyens avec des infirmières et des gens compétents dans les blocs, mais aussi éviter les fautes d'inattention, hein, parfois.
Oui, oui. Doit, ouais. Et puis la fatigue, le fait d'être à son, je sais pas moi, sixième patient de la journée, forcément, eh ben, on fatigue.
Dans ces cas-là, que s'est-il passé, vous, après votre, après cette affaire? Il y a une remontrance vis-à-vis du médecin qui avait rasé la mauvaise partie du crâne du patient?
Le chirurgien qui est responsable de l'intervention a fait réinstaller correctement son patient. Et puis, ben, il s'est occupé de faire les remontrances à son étudiant.
Oui. Bon, très bien. Parce qu'il ne faut pas que ce genre d'incident ne soit pas suivi de, je dirais pas de sanctions, mais enfin des remontrances nécessaires, quoi. Il faut vraiment attirer l'attention, parce que je pense aux victimes, là. Bon, merci en tout cas Isabelle, ancienne infirmière de bloc opératoire qui a présenté ses excuses à toutes les victimes d'erreurs médicales. Je ne suis pas certain que ce soit à elle de le faire, mais en tout cas elle a été très fair play de le faire. Merci Isabelle, pardon à Patrice que nous n'avons pas pu prendre au 3210.